France Inter. Le 18-20, Fabienne Saint-Es.
Mais quelle star, c'est Léonard. Que dirait-il aujourd'hui s'il savait que 500 ans après sa mort, il est toujours aussi fascinant et donc sans doute aussi toujours aussi actuel? Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, ce Léonard de Vinci qui fait les unes des magazines et dont on sait déjà que cette exposition qui commence jeudi est la plus courue de France et se joue à guichet quasiment fermé? Alors bien sûr, il laisse des œuvres, mais pas tant que ça si on se borne à la simple peinture. Bien sûr, il laisse des incontournables, il laisse la fameuse Joconde, la Seine, la Vierge à l'enfant, mais pas seulement. Léonard était aussi un homme à plusieurs casquettes, un ingénieur, un architecte, un homme qui a fabriqué des machines de guerre, dont certaines d'ailleurs sont d'une terrible violence. Léonard a fréquenté avant François Ier César Borgia par exemple. Il avait toutes les audaces, il était paradoxal, il était peut-être mercenaire. Nos invités pourront me contredire s'ils le veulent, à se demander finalement si l'homme n'a pas été plus célèbre que son œuvre. Ce soir, essayons de passer 40 minutes dans la tête de Léonard de Vinci. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Daniel, c'est vous le premier. Bienvenue, Daniel.
Bonjour, Fabienne. Merci à vous. Bonjour à tous. Et merci pour le clin d'œil, en fait, pour les enseignants, puisque je suis enseignant.
Eh ben, écoutez, mais vous savez, si on enlevait les enseignants de France Inter, que resterait-il? Allez-y, je vous écoute.
Oui, je voulais témoigner en fait sur, vous avez dit juste avant là qu'il était actuel. Ouais, c'est vrai que Léonard de Vinci est un homme très moderne. Donc c'est un humaniste de la Renaissance, mais on a gardé des écrits de lui et notamment des prophéties qui, hélas, ont été d'ailleurs très très bien vues, puisque en fait, pour moi, Léonard de Vinci est aussi un écologiste avant l'heure. Il parle beaucoup de la nature et il voit la nature par la suite saccagée par l'homme, des forêts abattues, des eaux polluées. Il parle aussi de la guerre menée aux animaux. Bon, lui-même était végétarien d'ailleurs. Et pour moi, c'est vrai que c'est bon. Il est aussi européen. Pour moi, c'est un homme qui a vu par rapport à ses travaux d'ingénierie et d'architecture. Évidemment, il a créé des machines qui, par la suite, ressemblent beaucoup à nos machines de guerre. Mais lui-même, pour moi, était un homme quand même très très pacifique.
Eh ben, c'est ce qu'on verra avec nos invités. Merci beaucoup pour votre question, Daniel. Je trouve ça vraiment passionnant parce que à la fois c'est l'image qu'on a de Léonard de Vinci, mais peut-être l'image qu'on aimerait aussi en avoir. Pour répondre et discuter ensemble, pour répondre à vos questions, Pascal Briouat est là. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université François Rabelais de Tours. Vous êtes spécialiste d'histoire culturelle. Vous avez écrit Léonard de Vinci, homme de guerre, et c'est publié à Alma. Et ça vient de sortir tout juste. Bonsoir, Jacques Franck. Vous êtes peintre et historien d'art. Vous êtes spécialiste aussi de Léonard de Vinci. Je vais commencer avec vous, Pascal Briouat, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il était tout ça, Léonard, écolo, végétarien, proche des animaux?
Alors je risque d'être un petit peu désagréable avec Daniel et je m'excuse auprès de lui. Il n'est rien de tout ça.
D'accord.
Il n'est rien de tout ça et le travail de l'historien précisément, c'est de se débarrasser de ce regard rétrospectif qu'on a sur lui. Premièrement, il n'est pas humaniste parce que il n'a pas eu le droit d'apprendre le latin puisque fils illégitime. Ensuite,
humaniste au sens propre du terme. Donc,
sens propre du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de repartir au texte ancien. Ensuite, cette question de l'écologie, je suis un petit peu perplexe par rapport à tout ça parce que l'écologie évidemment n'existe pas à l'époque de Léonard. Que Léonard s'intéresse à la nature, c'est une évidence, mais Léonard s'intéresse aussi à l'exploitation de la nature. Ces machines industrielles ne sont pas particulièrement écologiques. Quant à l'idée d'un Léonard pacifique, alors là vraiment je m'inscris en faux contre tout cela, puisqu'il était l'ingénieur général, l'ingénieur en chef de César Borgia, qui n'était pas réputé être particulièrement tendre. Donc oui. il faut faire très attention de ne pas plaquer nos fantasmes à nous sur un homme qui est profondément un homme du Moyen-Âge.
Alors on va y revenir à notamment à ces machines de guerre, mais Jacques Franck, c'est un peu ce que tu disais aussi en introduction, on a l'impression qu'il y a deux Léonards en fait. Il y a celui qu'on imagine, celui qu'on voit au fond à travers les œuvres de peinture, donc cette beauté-là, et celui qu'on a fantasmé au cours de ces 500 ans, au fond, de ces 500 dernières années.
Oui, mais ça, c'est le propre des légendes qui déforment l'histoire et qui font que les personnages deviennent différents de leur réalité. Ce que je peux dire à propos de Léonard s'inscrit principalement au travers de sa peinture. Sa peinture est l'expression d'une recherche très prolongée sur des problèmes très complexes de représentation du réel, et il est, je dirais, immensément et singulièrement novateur parce qu'il va vouloir appliquer une recherche scientifique pour mettre de l'exactitude par rapport à la représentation. Donc ça demande quoi ? Ça traduit quoi ? Du point de vue humain, ça traduit une personne qui est profonde et une personne qui a une immense patience. Car pour lui, le fait de rechercher la vérité qu'il recherche au travers de ses observations est en dehors du temps, si vous voulez. On sent qu'il ne cessera pas de rechercher tant qu'il n'aura pas abouti. Donc il n'y a pas un besoin de réalisation immédiate, superficielle, mais au contraire, la recherche d'une vérité.
Et c'est
donc
pour ça qu'il y a...
Il y a un fond de sagesse dans Léonard.
Et c'est pour ça qu'il y a aussi peu d'œuvres de peinture en soi. Il y a des centaines de dessins, il y a des milliers d'œuvres, etc. Bien sûr, mais de toiles en soi, c'est pour ça qu'il y en a si peu. Parce qu'il il avait besoin de ce temps-là.
Oui, alors je me permets, entre parenthèses, une toute petite rectification. Il n'y a pas de toile, il y a des dessins.
Absolument.
Sur toile, n'est-ce pas ? Mais toutes les œuvres de Léonard connues
Vous avez bien raison.
sont sur panneau.
Parce qu'on dit qu'il y revenait tout le temps, en fait. C'était jamais fini.
C'est-à-dire que la recherche de Léonard est progressive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il effectue son expérience de peintre, il s'aperçoit sans doute des données qui lui manquent pour arriver à son idéal, à la concrétisation de son idéal. Et il fait des recherches complémentaires. Et on peut dire que quasiment aux alentours de 1490, c'est un homme qui s'appuie sur la science pour pouvoir faire de la représentation à son idée exacte de la nature, mais tout en respectant un certain nombre de conventions iconographiques qu'il ne peut pas contourner à cette époque-là. Mais il fait des recherches très approfondies et je dirais qu'à la limite, il passe plus de temps dans la recherche qu'il ne passe de temps dans la réalisation des œuvres.
J'allais dire, est-ce que c'est ce qui l'intéresse, est-ce que c'est tout ce qu'il y a derrière et à côté ou est-ce que c'est l'art au fond ? Est-ce que c'est vraiment l'art qui l'intéresse, au bout du compte, en fait ? En vous écoutant, j'ai l'impression que c'est toute la technique qui va derrière, c'est tout ça qui l'intéresse finalement plus que la représentation au final.
Alors écoutez, moi je suis pas un homme de la séparation des choses. Martin Kemp a dit de façon très pertinente, à mon avis, qu'on ne peut pas séparer toutes les multiples facettes de Léonard. C'est un homme qui possède toutes ses facettes et qui réagit à différents stimuli de recherche et d'autres par rapport à ses possibilités qu'il a de pouvoir exploiter tel angle ou tel angle de la recherche. Donc tout ça, on peut dire que c'est un peintre, physicien, géologue qui agit dans le sens de l'art et qui agit dans le sens, mais qui nourrit un fond insatiable de curiosité qui est en lui.
Pascal Briouat, en parlant de ce que disait à l'instant Jacques Franck, c'est-à-dire qu'on peut pas séparer les choses, alors c'est vrai qu'il avait beaucoup de casquettes, mais au fond, est-ce que l'un allait toujours avec l'autre ? Est-ce que, pardon de caricaturer comme ça, c'est une machine de guerre à un moment, et puis dans le mois suivant, ou les 6 mois suivants, c'est une œuvre artistique, et puis le mois suivant, on est encore dans autre chose. Comment ça se passe dans la tête de Léonard ?
Vous avez raison, en fait, on peine à trouver une période où il aurait été scientifique,
c'est ça.
Et une autre période où il aurait été peintre, parce qu'il est pratiquement toujours la même chose en même temps. Sauf peut-être les 2 années de service militaire auprès de César Borgia, où là, il ne peut pas faire autre chose, il est sur les routes. Mais Léonard est aussi un scientifique. Dans un tableau de Léonard, Léonard se veut démiurge. Il le dit en plaisantant, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Voilà, quand je peins, je suis Dieu. Et si je suis Dieu, je dois incarner tous les savoirs qui sont à ma disposition, la physique, l'hydraulique, la géologie, l'optique, dans tous ces aspects.
Jérémy, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Jérémy, allez-y.
Voilà, moi j'ai une question concernant les inventions de Léonard. On lui attribue un ensemble de créations, de machines de guerre, d'hélicoptères, d'avions... moi, j'ai un peu des doutes. Est-ce que vraiment il était le créateur de toutes ces machines ou alors il les a juste décrites, dessinées ? Est-ce qu'il n'aurait pas fait des recherches en tant qu'ingénieur dessus ? Est-ce qu'il ne s'est pas inspiré de ces rencontres? Parce que moi, ça me semble tellement fabuleux, tellement dingue, que j'ai du mal à le croire.
Eh ben merci Jérémy pour cette question, Pascal Briouard. C'est oui, tellement fou que c'est, on a du mal à le croire.
Non mais Jérémy a parfaitement raison. On n'invente pratiquement jamais rien tout seul. Et Léonard est effectivement quelqu'un qui emprunte énormément aux arts mécaniques de son temps. Cela dit, il a une approche globale qui lui permet de décomposer toutes les règles de la mécanique afin de perfectionner tous ses prédécesseurs. Et puis sa méthode d'observation et d'expérimentation lui fait enquêter dans des domaines qui jusque-là n'avaient pas été explorés aussi à fond. C'est notamment le cas des machines volantes, parce que là, Léonard est dans l'imitation du vivant. Et à ma connaissance, peu de gens avaient poussé aussi loin la réflexion lui.
Puisqu'on était aussi dans les machines de guerre, est-ce qu'il en voit les faits, en fait? Est-ce qu'il en imagine les faits? Ou est-ce qu'au fond, on est dans celui qui fabrique dans son coin et puis qui ne sait pas, ou peut-être ne veut pas savoir d'ailleurs quel sera l'effet au final?
Non, pas du tout. En fait, les machines de guerre, celles auxquelles on fait toujours référence, sont très précoces dans la carrière de Léonard. C'est un petit peu sont des dessins un peu naïfs, en réalité, qui la plupart du temps, d'ailleurs, fonctionnent assez mal.
D'accord.
Quand Léonard va devenir un ingénieur militaire, quand il va arrêter de s'intéresser aux catapultes, et il va être spécialiste d'artillerie, et surtout de fortification et de cartographie. C'est ça la vraie ingénierie militaire de Léonard. Le reste, c'est des dessins d'adolescence pour moi.
Il y a une question pour vous, plutôt Jacques Franck, de Olivier sur franceinter.fr, qui nous dit, est-ce vrai que très jeune, c'était déjà ingénieur, et que son maître d'atelier était émerveillé par son élève, et qu'il disait même, il repense tout, il révolutionne tout. Lorsqu'il est apprenti et qu'il a seulement 12 ans, Léonard de Vinci, est-ce qu'on sait déjà ce qu'il peut devenir?
On n'a que le récit de Vasari qui parle de l'enfance de Léonard comme d'un génie, né génie en quelque sorte, disant qu'il a des dons extraordinaires, qu'il fait déjà du modelage, qu'il peint, modèle des figures souriantes, ensuite que lorsqu'il entre dans l'atelier de Verrocchio, que Verrocchio aurait abandonné
Abandonné
la peinture, mon avis,
son apprenti était
purement
meilleur.
Légendaire, parce qu'il avait vu les dons tellement supérieurs, oui, l'ange porte-vêtements dans le baptême du Christ. Il faut certainement relativiser ça. Moi, je pense que Verrocchio a compris qu'il avait un assistant brillant et qu'il pourrait lui confier des tâches importantes de telle sorte que l'atelier puisse devenir le premier de Florence, qu'il était déjà quasiment pour la sculpture. Mais il n'y a pas, que je sache, de description très exacte du rapport entre Verrocchio et Léonard à propos de la spécificité de ses dons.
Est-ce qu'on sait... Je vais poser la question comme ça, Pascal Briouard. À quel moment on sait, parce que Léonard de Vinci était très connu de son vivant, enfin a eu cette espèce de notoriété. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire par rapport à notre époque, cette notoriété de Léonard de Vinci. Mais à quel moment on sait, à son époque, qu'on a là un être exceptionnel? Est-ce qu'on s'en rend compte à ce moment-là?
Je crois que Léonard a souffert, en tout cas pendant la période florentine, donc avant 30 ans. Il a souffert de ne pas être reconnu comme il espérait être reconnu.
D'accord. Donc il avait aussi très conscience lui-même de ce qu'il était, de ce qu'il faisait.
Oui, fils illégitime, homme sans lettres, il le dit lui-même avec sarcasme, mais c'est quand même une douleur. Mais après cela, quand il entre au service de Ludovic Sforza, c'est-à-dire la période milanaise, là, il devient, il est reconnu à la fois comme ingénieur et comme peintre et comme architecte.
Et pour le coup, pour prolonger même la question d'Olivier, à quoi rêvait-il au fond, Jacques Franck, Léonard de Vinci?
Rêvait-il, c'est-à-dire?
À quoi rêvait-il de que voulait-il devenir, en fait? Que
son
voulait-il
aspiration.
Être
C'est un ingénieur artiste, on pourrait dire, qui veut être reconnu pour la multiplicité de ses dons, mais d'autre part, il est bien obligé d'entrer au service de ses protecteurs, des grands, plutôt dans les cours princières, en ayant un poste officiel. Donc, en fait, à Milan, c'est là où il va commencer à réaliser ses rêves. Il est à la fois un courtisan, il est un organisateur de fêtes, un concepteur de décorations merveilleuses. Il est évidemment le peintre le plus reconnu, d'ailleurs, le duc le dit dans un texte, et le recommande au roi de Pologne. Évidemment, pour les textes, on n'a pas de texte très précis sur son engagement comme architecte avant 1487, quelque chose comme ça. Hein. Et ses rêves, est-ce qu'il a des rêves? Je pense que son premier rêve,
Mais vous voyez, quand il est chez Verrocchio, par exemple, il a envie de quoi? À ce moment-là, c'est un très jeune garçon, il se dit « je serai peut-être le plus grand artiste de tous les temps », mais sait-il dans un coin de sa tête que tellement d'autres choses l'intéressent, qu'il sera aussi ingénieur ou architecte, mais à ce moment-là, ce qui l'intéresse, c'est plutôt l'art. Le Léonard de 12 ans, il s'imagine quoi, à votre avis, quand il est dans cet atelier, quand il est apprenti et qu'il dessine ce fameux angelot?
Il est un artiste curieux de tout et je pense qu'il ne peut pas savoir encore à quel point il va se spécialiser dans toutes sortes d'autres choses qu'il va explorer. C'est au fur et à mesure.
Il s'intéresse déjà aux arts mécaniques, par exemple, à cette époque.
Oui.
Et c'est quelqu'un il est extrêmement dégourdi, visiblement, ce Léonard de Vinci. Vous le disiez, organisateur de fêtes, ça commence là. Et puis, il entre dans les cours des grands aussi très vite. Comment, lui, vous le disiez, qui n'avait pas d'humanité, qui n'a pas été éduqué, qui était fils bâtard, illégitime, pardon. Comment il fait, en fait? Comment il fait pour s'élever là, ce Léonard?
Alors voilà, c'est le grand mystère. Comment il a pu faire? Et moi, c'est ce qui me fascine le plus peut-être chez Léonard, c'est son caractère autodidacte. Mmh. C'est-à-dire que il y a des lectures, beaucoup de lectures. C'est un grand lecteur. Il y a des rencontres. Et puis, s'il ne connaît pas le latin au début, à 40 ans, ça y est, il l'a appris.
Ouais, ouais, ouais. Mmh.
Donc, il y a des savoirs. Les rencontres avec des intermédiaires savants qui vont avoir la gentillesse de lui passer des savoirs qui, théoriquement, devraient le dépasser.
Bonsoir, Augustin.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, Augustin.
Merci, merci pour votre émission. J'avais une question sur Léonard, pour peut-être mettre en perspective moi, quelque chose qui m'intéresserait. C'est passionnant d'entendre des historiens ou des conservateurs parler de Léonard, mais je me demandais quelle place il pouvait avoir pour nous, Européens, dans la création culturelle d'aujourd'hui, je m'explique. C'est-à-dire qu'à l'heure de Netflix, etc., si on regarde un petit peu la scène internationale, globalisée comme ça, de la production culturelle, on est un peu... on est fertile, mais on est sorti du tableau, quoi, sans faire de jeu de mots. Et donc ma question était, qu'est-ce que Léonard peut nous inspirer, à nous, Européens, culturellement aujourd'hui, de façon très dynamique? Est-ce que c'est de l'histoire? Est-ce que c'est fini? Pour passionnant que ça soit, ou est-ce que c'est une source spécifiquement, authentiquement européenne, puisqu'il est iconique de ça quand même aussi, et est-ce qu'il est dynamique là, encore en fait, voilà.
Merci. Merci pour cette question, Augustin. Jacques Franck, est-ce que vous voulez essayer de répondre jusqu'à quel point est-il moderne au fond et nous inspire-t-il nous
Mais qu'est-ce que la modernité? Donc ça induit une réflexion très très complexe. Moi je pense que les qualités de Léonard comme artiste, en dehors de tout ce qui est spécifiquement inné et génial, si vous voulez, qui n'est pas une chose que l'on cultive et que l'on maîtrise, le don est là. Ensuite le don c'est comme un capital qui s'exploite. Mais c'est l'extraordinaire curiosité, l'humilité qu'il faut avoir pour réviser constamment son jugement, continuer humblement de faire des recherches, et puis une extraordinaire patience pour tout de même arriver à des réalisations comme la Joconde, qui est une peinture expérimentale qui a certainement mis des années à être faite. Bon, donc, et c'est sa haute idée de l'art qu'il voit quasiment comme une sorte de religion. Enfin, c'est peut-être péjoratif d'utiliser le terme de religion, parce qu'on ne peut pas l'appliquer justement à Léonard, qui est quelqu'un qu'on peut considérer comme achrétien. C'était le mot de Bernard Dorival. Mais en même temps, je pense qu'il se donne totalement à une recherche de, au fond, sur les causes de l'existence du monde et quoi faire en étant dans ce monde. Et là, il a évidemment différents projets, mais je pense que l'homme moderne a beaucoup de projets. Et la multiplicité des... Alors nous sommes dans un monde hyper spécialisé, mais Léonard montre que la fédération de toutes ces spécialités auxquelles il s'intéresse permet d'avoir une compréhension plus globale de l'univers et d'arriver à une intelligence des choses. Alors ça, il dit que la peinture est un mode de connaissance actif. Donc c'est assez extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de ça? C'est tout simplement parce que il traite de la possibilité d'embrasser le monde par le sens de l'image. Donc ça, c'est très très fort aussi, parce que tout ce qui est visuel est partie intégrante de notre structure humaine. On voit et on réagit par rapport à l'image, au visuel. Ça, c'est très important chez Léonard.
Pascal Briouat, qu'est-ce qu'il nous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous transmet aujourd'hui à nous, Européens, ce Léonard, selon vous?
Je crois qu'aujourd'hui, il nous passionne d'autant plus que nous sommes dans la spécialisation. Mmh. Voilà quelqu'un qui a une approche globale de la vie, de la nature, de l'art, et une approche que nous avons perdue d'une certaine manière. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, il y a un projet qui pourrait être un projet contemporain aussi.
Il y a une question de Yann sur franceinter.fr qui, au fond, veut rejoindre notre ami Daniel qui avait une image très pacifique et très romantique de Léonard de Vinci, qui nous dit qu'il a quand même également dessiné des instruments de musique, notamment la viola organista, qui est un hybride entre le clavecin et la viole de gambe.
Alors oui, alors il était même considéré comme grand musicien.
Et pardon, ça a marché cet instrument?
Alors la viola organista, on n'a pas de preuve que ça ait vraiment marché.
D'accord,
en revanche,
pas de notes.
Non, mais on a un air de Léonard de Vinci sous forme de rébus. Écrit à la lira da braccio, une lira bras, c'est-à-dire une sorte de violon avec des cordes de bourdon, et c'est une chanson d'amour. Les seules notes que nous ayons de Léonard, c'est une chanson d'amour. Je trouve ça assez joli.
Jacques Franck, il y a cette... Pardon, allez-y, Jacques
Franck.
Magnifique. Magnifique, absolument. Cette question de Maxime d'Oberhausbergen qui nous demande à quoi finalement on reconnaît un Léonard de Vinci. Est-ce que vous êtes capable de dire ça oui, ça non?
Oui, oui, je suis capable de dire, je vis avec depuis l'âge de 7 ans. Et oui, Léonard est immédiatement reconnaissable. Mm-hmm. C'est une des choses que je peux dire. Et d'autre part, à quoi il nous étonne toujours par son niveau de compréhension. Par exemple, pour un peintre qui a des problèmes de représentation d'une main ou de l'expression d'un visage, il trouve la meilleure solution, la plus intelligente et celle qui frappe le plus et qui est en même temps qui a une valeur universelle en quelque sorte. C'est stupéfiant. C'est toujours quelque chose d'étonnant. Je pense que tous les spécialistes qui connaissent bien Léonard savent le reconnaître.
C'est aussi une question pour vous, celle d'Oscar. Bonsoir, Oscar. Oscar, est-ce que vous êtes là?
Allô?
Oui, on vous écoute. Allez-y.
Bonjour, je vous téléphone parce que bon, je suis sculpteur et j'ai été étonné, j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il était justement dans l'école d'un maître sculpteur, puisque ce monsieur, chez qui il était, je ne me rappelle plus le nom, je suis un peu étonné, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça se fait qu'il n'est pas allé vers la sculpture? Alors, je voulais faire aussi une autre petite remarque. Vous parlez beaucoup de dons, et moi, je suis pas trop d'accord là-dessus, parce que je pense que les gens qui ont du talent, moi, je dis pas que j'en ai, hein, mais j'ai un ami qui joue la guitare, il a un très fort talent, et je trouve que si on dit de lui qu'il a un don, c'est une insulte presque, parce que c'est un travail énorme, et les gens qui font des choses bien, en général, ils ont beaucoup travaillé, et ils ont beaucoup de passion. Alors, qu'ils aient une inclination, d'accord, mais je trouve pas de don. Par contre, voilà.
Un don sans travail est une sale manie, comme disait Brassens, autant que je sache.
Donc voilà, j'aurais voulu savoir si les gens qui sont là, qui sont des spécialistes apparemment, pourraient donner une explication pourquoi il n'est pas allé vers la sculpture comme Michel-Ange et tout ça quoi.
On va essayer d'y répondre, Pascal Briouat, pardon.
Oui, alors il y est allé.
Ouais.
Il y est allé. En fait, il a réalisé le modèle en anglaise, le modèle en terre cuite en l'occurrence, d'un cheval trois fois plus grand. D'une statue équestre trois fois plus grande qu'un original. Et c'est en cela, il dépassait complètement Verrocchio. Il avait trouvé les solutions techniques pour couler autour de ce moule un bronze gigantesque. Et au dernier moment, alors c'est la réponse à votre question, le bronze en question a été réquisitionné pour faire des canons du duc de Ferrare.
Mais il n'y est pas revenu, il n'y a pas de sculpture des Léonards, ou j'en sais rien, peut-être qu'un jour, allez savoir, mais il n'y a rien qu'on connaisse qui serait une sculpture de Léonard.
On a à Budapest un petit cheval réalisé par un apprenti de Léonard dans l'atelier Léonard qui nous donne une petite idée de ce qu'auraient pu être les statues de Léonard. Mais malheureusement, non, rien d'autre.
Vous vouliez ajouter quelque chose,
non,
Jacques?
Non, il n'y a que des attributions pour les sculptures. Et finalement, comme il n'y a pas de documentation derrière, c'est assez difficile, ni de lignes communes vraiment qui permettent d'affirmer un style particulier, qui soit caractéristique.
Bonsoir Bernard Yves.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur, allez-y.
Bonsoir à vous tous, merci à France Inter pour ces belles émissions. Ma question concerne le château de Chambord, j'habite à 15 km, donc voilà, j'ai cette chance. Ma question c'est quel a été le rôle, l'action en fait, précise si c'est possible, de Léonard de Vinci par rapport à la construction du château de Chambord, en dehors de l'escalier, puisque bien sûr l'escalier c'est sa technique par rapport à l'escalier où on ne se rend compte jamais. Voilà, dites-nous un peu quel était le rôle de Léonard de Vinci à Chambord.
Pascal Bribois.
Ça va être facile.
C'est une légende, c'est ça?
Il n'y en a pas, puisque Léonard meurt en 1519 et que le début du château de Chambord, c'est 1519.
Mais pourquoi on croit quasiment enfin, que Chambord, c'est Léonard?
Alors, malgré tout, c'était la deuxième idées, phase de ma réponse, malgré tout, en fait, les idées de Léonard ont percolé. Notamment parce qu'en 1518, Léonard travaillait avec Dominique de Cortone, qui est un des architectes connus, si ce n'est de Chambord, en tout cas des maquettes d'un proto-Chambord. Et les idées de Léonard ont pu effectivement circuler à ce moment-là. Mais même quand on dit les idées de Léonard, en fait, c'est déjà une synthèse entre des travaux à la française et des travaux à l'italienne. On le voit bien dans les projets que Léonard avait pour Romorantin, un autre palais. Chambord, c'est peut-être un plan B, réalisé par d'autres que Léonard, mais peut-être à partir des idées de Léonard. Et l'escalier était quand Léonard le dessine, c'est en 1490. Donc rien à voir avec le contexte de Chambord.
Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir. J'ai une question sur les rapports de Léonard avec l'Église catholique, car la Joconde ressemble quand même à une icône orientale, mais avec ce petit sourire ironique qui pourrait faire penser que Léonard était très critique, ainsi que beaucoup d'autres chrétiens à l'époque, par rapport à la non-intervention de l'Église pour défendre l'Église orthodoxe et Constantinople prise par les Turcs en 1453.
Alors voilà, professeur d'histoire Jacques Franck. Donc moi je trouve ça fascinant encore, c'est un peu comme la première question de Daniel au fond. Dans le petit sourire de la Joconde qui appartient désormais à tout le monde, Alain, il y a vu une espèce de sourire ironique envers l'Église. Qu'est-ce que vous en dites Jacques Franck?
Non, moi je pense que là on s'écarte de la réalité. Léonard n'exprime pas vraiment enfin, il faut se baser tout de même sur l'histoire et sur les textes, sur les sources dont on dispose pour pouvoir affirmer une chose ou une autre. Il n'y a rien de très précis sur cette question. La Joconde est un portrait, on en a douté longtemps, maintenant on sait quel était le modèle, on sait quelle est la date d'exécution, il essaye de peindre une belle femme du temps de la Renaissance, elle est considérée à Florence comme une beauté, et évidemment elle a dans ses caractéristiques morphologiques quelque chose qui lui convient particulièrement. Donc l'artiste est séduit par son modèle. Maintenant, l'expression est certainement en rapport avec le nom, le patronyme familial de la dame, Del Giocondo, joyeuse en quelque sorte. Et je pense qu'il a joué autour de ce thème et mis en opposition justement ce terrible paysage, si vous voulez, qui est à la fois fascinant mais qui est en même temps inquiétant. C'est rempli de bouleversements géologiques et d'étrangetés, et ce contraste fait que la Joconde a quelque chose de non seulement de novateur mais surtout de si typique que ça ne pouvait que traverser le temps et parvenir jusqu'à nous comme étant une chose singulière et merveilleuse.
Mais son rapport à la religion, au fond, vous le décririez comment? Allez-y, Pascal Bribois, si vous voulez.
Oui, alors là, je dirais qu'on a quand même deux, trois éléments. On sait que Léonard, comme beaucoup d'autres avant lui au Moyen-Âge, était critique des moines, par exemple. On a des petites fables de Léonard qui sont très anticléricales. on sait aussi que...
Et à l'époque de la Seine aussi.
Et voilà.
À l'époque de la Seine aussi. Il critique le supérieur du couvent.
C'est ça. Et il a très souvent des visions qui sont à lui. Si on prend la Vierge au Rocher, c'est une interprétation quand même très très personnelle de l'Immaculée Conception. Mm-hmm. Donc en fait, il a de même conscience, il est capable de critiquer Aristote hegelien. En religion, il a ses propres idées. Il est religieux, il n'y a pas de doute. Mais c'est un christianisme adapté à sa conception de la nature.
Oui, mais ça lui convient bien. Mais moi, j'aurais pas osé affirmer qu'il était anticlérical quand même. Parce que beaucoup de ses commanditaires sont des religieux, il ne faut pas l'oublier, notamment pour ce qui concerne la Vierge au Rocher. N'empêche, mais il sera en conflit. Il sera quand même en conflit
fables.
Avec eux.
N'empêche qu'il y a ces
fables. Il y a ces fables, oui.
Qui sont anticléricales, mais c'est pour faire rire la cour.
C'est pour faire rire la cour, oui.
Allez, on va revenir aux choses un peu mécaniques. J'allais dire Jean-Jacques, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Jean-Jacques.
Voilà, oui, pour en revenir aux recherches de Léonard de Vinci en aéronautique, on va dire, en général. Il a parlé, il me semble qu'il y avait des schémas de recherche sur l'hélicoptère, quelque chose, aviation, etc. Est-ce qu'il a eu une approche de ce qu'on a appelé beaucoup plus tard, sous Louis XIV, ce que Montgolfière a découvert, donc la Montgolfière, dont on l'appelle la Montgolfière. Enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait les Chinois qui avaient quelque chose qui se rapprochait de la Montgolfière, mais ça, j'en suis pas sûr. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il avait fait des recherches aussi par rapport à ce que Montgolfière a découvert, quoi, Montgolfier, pardon. Est-ce qu'il a... et d'autre part, est-ce... alors ça c'est
vas-y.
Une autre dernière. Oui, est-ce que ça m'étonnerait, mais est-ce qu'il aurait été en contact avec Marco Polo?
Eh ben, on va poser la question. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour votre question. Pascal Briouat, d'abord la Montgolfière.
Alors non, il n'y a pas du tout de... Les recherches de Léonard n'utilisent pas la question, les gaz pour faire grimper les plus lourds que l'air. En revanche, il découvre des choses tout à fait intéressantes sur les notions d'action et de réaction qui sont derrière le concept moderne de portance. Là, donc, il observe les oiseaux et les planeurs, oui. Les planeurs, les ailes, des ailes à souffler, des choses extrêmement complexes qui imitent les oiseaux. Il est allé très très loin dans ce domaine-là. Donc ça, c'est du biomimétisme. Et la dernière
Marco
question.
Polo.
Ah oui, Marco Polo. Alors là, la réponse est simple. Marco Polo, c'est le 13e siècle. Voilà. Et avec Léonard, il naît en 1452.
Mais donc, et c'est ça qui est.
Ils se sont ratés.
Et c'est ça qui est formidable avec ce personnage. Et regardez même à l'image finalement de cette émission, les gens vont d'une question sur la peinture à une question sur les montgolfières, les chars et je ne sais quoi d'autre. Il y a aussi des gens, on me le signale, qui nous appellent et qui nous disent arrêtez de l'appeler Léonard, c'est pas un pote à vous. Mais en fait, si. Au fond, depuis le temps, Pascal Briouat, non?
Ah ben, de toute façon, on est obligé de l'appeler Léonard parce que Vinci. C'est pas du tout parce que c'était un pote à moi, encore que. Vinci, c'est le lieu de provenance.
Bien sûr, ouais.
Il est Leonardo da Ser Piero da Vinci, c'est-à-dire, si je traduis de l'italien, Léonard, fils de Pierre le notaire, de la ville de Vinci. Donc ça n'est pas un patronyme. À l'époque, on n'a pas de patronyme si on n'est pas noble. Enfin, on a des patronymes quand on est en dehors de chez soi. Léonard a un apprenti qu'il appelle Jules l'Allemand parce qu'il vient de quelque part dans des terres impériales, mais c'est tout.
Allez, il nous reste un peu de temps. Bonsoir Hugues.
Oui, bonsoir. Ah bah déjà, chapeau bas pour toutes vos émissions. Alors simplement, je voulais savoir, je crois que Léonard de Vinci conservait les traces de ses écrits en utilisant un miroir et en écrivant à l'envers. Est-ce qu'à l'époque, c'était quelque chose de très courant pour tous les chercheurs, sculpteurs, peintres, ingénieurs, ou est-ce que ça lui était spécifique? Et pour quelle raison Léonard a fait ça? Est-ce que c'était pour protéger ses recherches sur notamment les armes?
Eh bien, on va y répondre. On va essayer de répondre à cette question. Qui veut y répondre? Pascal Briouat, vous avez été désigné comme volontaire par Jacques Franck.
Oui, d'accord. Bon, c'est assez simple. En fait, il est gaucher.
Ouais.
Et il y a 15% des gauchers qui sont capables d'écrire de façon ambidextre. Et sur ces 15%, il y a une petite minorité de personnes qui sont, ça c'est les travaux des neurobiologistes nous ont beaucoup appris sur la question, qui sont capables effectivement d'écrire spontanément. Quand vous écrivez à l'encre de la gauche vers la droite avec votre main gauche, Vous passez sur l'encre. Mm-hmm. Donc, ça fait des pâtés, ça n'est
oui,
pas
oui, le fameux geste des gauchers, de certains gauchers.
Or, le cerveau de Léonard, probablement, il a le sens du langage dans les deux hémisphères cérébraux. Pour lui, c'est absolument pas un problème. Il est capable de rectifier spontanément. Son cerveau rectifie. Donc, son cerveau lit à l'endroit. Pourquoi il gênerait ? Et comme il est autodidacte, personne n'a tellement corrigé là-dessus. Alors que ça serve de...
Il n'y avait rien à camoufler ou des choses comme ça.
Je crois que ça peut aider à camoufler, mais quand Léonard veut vraiment camoufler des choses, il surcode. Mmh. C'est-à-dire que, d'une part, il écrit en écriture spéculaire, mais en plus, il introduit des... Enfin, il change les mots, il change les lettres, etc. Donc, je ne suis pas sûr. De toute façon, le secret est très vite éventé. Dès qu'on met un miroir devant, c'est très clair.
Ouais. Puisqu'on est dans les carnets, dans les codes, Didier de Nogent-sur-Marne nous demande s'il en reste beaucoup des choses à découvrir de Léonard de Vinci, ou si au fond, on a l'impression qu'on a à peu près l'essentiel. Jacques Franck.
Dans quel domaine? Dans le domaine des manuscrits.
Alors là, par exemple, il parlait des carnets, mais pourquoi
carnets,
pas autre chose, en fait.
Il manque énormément de choses, ouais. Parce que ça a été dispersé au cours du temps, et on sait que certaines choses ont été disparues, d'où les travaux de recherche de Carlo Pedretti pour essayer de reconstituer des manuscrits manquants sur les projets de publication qu'il avait. Donc, je ne sais pas si on peut évaluer la quantité de pages, de manuscrits qui manquent.
On a 12 000 pages. Déjà, on peut déjà travailler sur les 12 000 pages. C'est-à-dire 6 000 folios. Hein. Oui. Donc, 12 000 pages recto verso. Et... Non seulement on a 12 000 pages, mais on sait qu'il y a au moins un tiers parce que de feuillets manquants, parce que Léonard y fait allusion constamment.
Mmh. Amélie est à Paris, elle veut savoir si vous pouvez percer pour nous le mystère de Salvador Mundi, alors, Jacques Franck.
Alors que veut-elle savoir,
eh ben,
au juste?
Alors moi je veux savoir, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a un réel doute?
Non, moi
quelle
je pense pas que ce soit
derrière Salvador Mundi.
Ah oui, je pense pas que ce soit de Léonard. C'est sur une idée de Léonard, à une époque où Léonard arrête de peindre des choses qui sont moins importantes que des commandes vraiment, je dirais, essentielles pour lui. Et il forme l'atelier avec quelques très bons collaborateurs. À imiter son style. Et d'après ce que je crois, donc sur cette idée, pour laquelle il y a deux études magnifiques de draperies qui se trouvent au château de Windsor, dans les collections de la reine d'Angleterre, nous avons un artiste qu'il forme, Salahi, et nous avons des textes aussi qui disent que Salahi devient un personnage important de l'atelier dans le milieu des années 1500, c'est-à-dire vers 1505 à peu près, et que au fond Léonard souhaite tout de même qu'il puisse avoir des responsabilités. Et d'après ce que j'ai pu trouver, toutes les couches inférieures du tableau exploré dans l'infrarouge qui révèle les dessous du tableau, on voit très bien que le tableau était commencé par Salahi, et que d'autre part il y a des maladresses qui ne sont pas imputables à Léonard.
Et voilà, comme ça, il y en a d'autres à voir. Donc celui-là n'y est pas, c'est pas grave. Et on a maintenant la vraie explication. Merci beaucoup, vous avez de la chance parce que vous y allez vous à l'inauguration tous les deux. C'est pour ça que je vais vous laisser, portez-vous bien.